Eh bien, chers frères et sœurs, comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai été invité à prêcher ailleurs, dans l'église Mennonite des Bulles, c'est son nom, en Suisse. Et c'est l'église dont mon père a été le pasteur, et dans laquelle j'ai vécu des années très structurantes pour ma foi chrétienne, entre mes 10 et 20 ans. Et ce culte, il était plus spécialement dirigé vers les jeunes. C'est quelque chose qu'ils font de temps en temps, avec un prédicateur qui est invité. Et le message est censé répondre à des questions que les jeunes ont eux-mêmes posées. Et alors cette semaine, pendant l'étude biblique que nous avons eue avec les jeunes, j'ai pu constater que les questions que se posent les jeunes français ressemblent beaucoup aux questions que se posent les jeunes suisses. Et peut-être rejoignent vos questions à vous aussi. Et donc, je vais vous faire part ce matin de ce que j'ai eu à cœur de partager avec eux. Mais je vous invite à commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous as déjà enseigné ce matin et tu as encore mille choses à nous dire. Et Seigneur, nos mots sont imparfaits, notre compréhension est imparfaite. Mais je te prie que par ton esprit, nous puissions ce matin ensemble nous approcher un peu plus de toi, comprendre un peu plus qui tu es et ce que tu attends de nous. Et viens toi-même sanctifier par ton esprit ces paroles que tu m'as mis à cœur de partager ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Donc, ça s'adresse pas qu'aux jeunes, vous l'aurez compris. Et Maury, tu es encore jeune. Même si aujourd'hui, tu as un an de plus. Donc voilà les questions que les jeunes nous font parvenir. Première question. Comment réussir à suivre Dieu plutôt que nos habitudes mauvaises ou les conseils des gens de ce monde? Et deuxième question. J'en avais pris deux parce qu'elles se recoupent. Devons-nous avoir honte de nos péchés ou est-ce normal de pécher encore? Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé ces questions sous une forme ou sous une autre. Et moi, personnellement, elles m'ont parlé parce qu'elles rejoignent mon cheminement personnel et elles touchent des points, il me semble, fondamentaux de notre vie chrétienne. On y voit là-dedans les questions des règles de vie. Ce qu'il convient de faire ou ne pas faire. Il semble qu'il y ait des devoirs, hein. Devons-nous avoir honte? Comment réussir à suivre? Et donc, quelle est l'attitude que je dois adopter? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mal? Et puis, il y a aussi la question de la problématique des progrès, de l'évolution. Comment ça se fait qu'on pêche encore, malgré notre volonté? Sortir du péché, ça semble hors de portée, et on se demande comment réussir, comment parvenir à suivre Dieu. Un peu comme si c'était une performance, quelque chose qu'il faut qu'on arrive à obtenir à force d'entraînement. Donc ces deux questions vont structurer mon message de ce matin, et comme Abdel l'a dit, je vais m'appuyer sur l'Épître aux Romains, essentiellement le chapitre 7 et le chapitre 8. Alors, c'est un texte qui n'est pas facile, hein, quand on le lit comme ça rapidement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé en le réentendant tout à l'heure, mais je vais essayer d'en citer quelques extraits, et c'est un texte qui est difficile quand on le lit rapidement, mais il reste malgré tout abordable. Je vous encourage à le relire après, dans cette semaine par exemple, tranquillement, aussi à l'aune de ce qu'on aura pu partager ce matin. Alors, la première chose qu'on peut dire, si ça peut vous rassurer, c'est que Paul y partage ces questions que les jeunes ont posées. Donc, dans ce chapitre 7 que nous avons lu, il dit « Je découvre cette loi, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît, mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Me voilà bien malheureux, qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort ?» Non seulement il se pose la question, mais il est dans un désarroi profond. Mais il partage l'idée qu'il y a la possibilité de faire le bien et le mal, hein, et il voit vraiment qu'il y a la loi de Dieu d'un côté et la loi du péché de l'autre. Il dit « Je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît. La loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. C'est ce à quoi il aspire et pourtant, dans son corps, ça se passe autrement. » Au point que le passage qui était juste avant, pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors, est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de faire ce constat ? De vouloir le bien, et puis, malgré tout, de faire le mal, contre notre volonté. C'est terrible, ça. Et puis, en plus de répéter les mêmes travers. Et combien de fois on se dit, combien de fois on nous renvoie qu'il faut faire des efforts ? Mais quels efforts, exactement ? Comment je fais pour ne plus hausser le ton contre ce camarade de classe, contre ce collègue qui m'insupporte ? Comment je fais pour réprimer ma jalousie ? Comment je fais pour arrêter de juger les gens qui m'entourent ? Alors, je voudrais déjà revenir à la question des règles, parce que comment je fais pour faire ceci, faire cela ? Il est question de règles, il est question de loi, comme Paul le dit. Et puis, si vous vous présentez comme chrétien aux yeux de vos camarades, de vos collègues, ou bien aux yeux des journalistes, etc., dire que vous êtes chrétien, le christianisme s'est perçu comme être une religion. Ben, qu'est-ce qu'on entend par religion ? Il me semble que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est compris comme s'accorder en groupe sur une série de préceptes contraignants en vue de gagner une forme de paradis. Hein, on va se mettre des règles et puis en suivant ces règles, on obtiendra quelque chose dans une vie future. Et puis effectivement, de nos jours, toutes les religions, elles ont leur lot de règles, de rituels, de devoirs, d'interdits. C'est très présent dans le judaïsme, hein. Vous le savez très bien, on le voit beaucoup dans l'Ancien Testament. C'est très présent dans l'islam. J'ai découvert assez récemment à quel point ça l'est également dans le bouddhisme. Hein. Le bouddhisme, c'est pas seulement une philosophie, contrairement à ce qu'on peut penser des fois en Occident. Et puis, c'est aussi très présent dans le catholicisme. Ça l'a été encore plus dans le passé. Et puis, probablement que ça l'est aussi beaucoup chez les évangéliques. Je vous en laisse juge. Partout, l'homme doit s'évertuer à cadrer sa vie au mieux, en vue d'une récompense. Cette récompense, on peut noter qu'elle est d'ailleurs très incertaine, hein, la plupart du temps. Le prophète Mahomet lui-même n'est pas sûr d'atteindre le paradis. Hein. Et puis, celui qu'on appelle le Bouddha, il n'aurait atteint l'illumination qu'au bout de sa 14e réincarnation. Alors que c'est le maître à suivre. Donc, il faut s'accrocher quand même. Hein. Et puis on voit dans l'évangile aussi à quel point les religieux de l'époque, les pharisiens, ils s'en prennent à Jésus à chaque fois pour ce qu'ils considèrent comme des écarts aux règles de la loi de Moïse. Et je pense que Jésus ne souhaitait certainement pas fonder une nouvelle religion. D'ailleurs, si être chrétien c'est suivre des règles, eh ben allons-y, hein, suivre religieusement des règles. Je pense qu'on est particulièrement mal barré, parce que les règles données par Jésus sont probablement les plus exigeantes de toutes. Je vous en donne trois exemples. Donc c'est les paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne dans Matthieu 5. Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. » Normal, même les lois de la plupart des pays du monde sont d'accord avec ça. « Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère « imbécile » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira « fou » sera passible de la géhenne de feu. » Vous signez ? Vous êtes OK avec ça ? Un autre exemple. « Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Et moi je vous dis « quiconque » regarde une femme avec convoitise, a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Et des hommes dans la salle ? Et puis, troisième exemple, vous avez été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ces propositions sont d'une telle exigence qu'aucun de nous ne peut se prévaloir de les appliquer. On se rend bien compte que ce n'est pas en faisant des efforts ou par une discipline quelconque qu'on parviendra à les suivre. Elle nous condamne donc tous, au point qu'il semble qu'il n'y ait qu'une seule solution pour s'en sortir, soit les ignorer, soit les relativiser, en tout cas les tenir à distance. Et on le voit à travers ces exemples, il ne s'agit pas de modifier des habitudes de vie, il s'agit de transformer notre cœur en profondeur. Ce qui est touché par Jésus à travers ces exemples, et puis tous les autres que je n'ai pas cités, hein, c'est vraiment de toucher à notre cœur vraiment en profondeur. Et autant modifier des habitudes, ça peut se faire à force de volonté, à force de discipline, mais la transformation intérieure dont il est question nécessite d'autres moyens. Mais avant d'y venir, je vous propose de revenir aux origines. Parce que si on revient à la Genèse, dans le jardin d'Éden, quel était le péché originel? Quel a été le péché commis concrètement?
La désobéissance à Dieu.
Bon, ça, c'est pas concrètement la désobéissance. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait?
J'ai la pomme.
Voilà, ils ont mangé la pomme. Alors, c'était sans doute pas une pomme, mais ils ont mangé du fruit. Mais en fait, ils ont mangé du fruit de quoi? Du fruit de l'arbre défendu. C'est d'abord l'arbre qui est défendu avant le fruit. Et c'est quoi cet arbre? Eh bien, comme vous avez l'extrait sous les yeux, le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme, tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu m'en mangeras, tu devras mourir. Le problème, c'est de toucher à cet arbre. Et à ses fruits, évidemment, mais c'est vraiment l'arbre qui est en question. Et on voit que le seul interdit qui était posé par Dieu à l'origine, le seul, c'est de chercher à connaître ce qui est bien, ce qui est mal. Autrement dit, se préoccuper de ce qu'on doit faire ou pas faire, chercher à se conformer à des règles. Ça, et puis, ça va même loin, puisque Dieu prévient, cela entraîne la mort. Alors ça peut paraître surprenant, hein, parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attendrait, et pourtant est-ce que c'est pas ce qu'on a constaté précédemment? Avec cette tendance qu'a l'être humain à se poser des règles qu'il ne peut pas tenir et qui le mènent difficilement dans l'état qu'il aimerait. Hein. Paul, dans le passage que nous avons lu, dit bien, nos désirs mauvais utilisaient la loi pour agir dans notre corps et le résultat, c'était la mort. Autrement dit, la loi, la religion, le légalisme, si on veut prendre un terme plus savant, ça nous enferme, ça nous asservit, ça nous écrase et finalement, ça nous tue. Ça nous tue au moins spirituellement, mais l'histoire montre combien la lettre tue, hein, aussi très concrètement. D'ailleurs, en voilà un exemple. Dans Jean, chapitre 19, les autorités juives répliquèrent à Pilate, Nous avons une loi, et selon cette loi, Jésus doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. On voit à quoi mène l'obéissance scrupuleuse à la loi, très concrètement. Alors on peut se demander bah pourquoi Dieu donne des règles, pourquoi Dieu donne une loi si ce qu'il nous demande, c'est pas de chercher le bien et le mal. Alors, on propose de remettre les règles à leur place. Et pour ça, il y a un verset dans la lettre aux Galates que je trouve qui est assez parlant. Dans Galates 5, Paul dit, La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ, pour que nous soyons rendus justes par la foi. Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé, donc nous dépendons plus de ce surveillant. La loi a été notre surveillant. J'ai regardé dans plusieurs traductions, c'est le mot qui revient, effectivement, surveillant. Alors, effectivement, la loi veille sur nous, en ce sens qu'elle nous permet de vivre en accord avec Dieu, de nous rapprocher de lui, de nous garder dans ses voies. C'est bien le rôle d'un surveillant, c'est de veiller à ce que on ne déborde pas. Mais comme tout surveillant, la loi ne nous empêche pas de pécher pour autant. C'est pas parce que vous êtes surveillé que vous ne pouvez pas transgresser les règles malgré tout. Et bien entendu, elle ne change pas notre cœur. Alors j'aurais envie de dire que les règles, ce sont des glissières de sécurité, mais ce ne sont pas le chemin. Vous savez qui est le chemin. Les règles, elles empêchent les sorties de route, mais elles n'empêchent pas les dérapages. Et une autre fonction de la loi, c'est de nous révéler combien nous sommes pécheurs. Et donc, en nous révélant combien nous sommes pécheurs, elles nous font sentir la nécessité du salut offert par Jésus. Hein, toujours dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, qui ne s'affiche pas, voilà. Le commandement a permis de reconnaître combien le péché est mauvais et de montrer toute sa violence. C'est par confrontation aux règles que Dieu a posées qu'on se rend compte aussi à quel point le péché est plus fort que tout, à quel point on a besoin de quelque chose d'extérieur à nous pour en sortir. Et vous l'aurez noté dans le verset de la lettre aux Galates, nous ne dépendons plus de ce surveillant, parce que maintenant le temps de croire au Christ est arrivé. Et ça, je pense que c'était annoncé dès le jardin d'Éden. Parce que, oui, on a tous en tête l'image du péché originel, de cette fameuse pomme, qui n'est probablement pas une pomme, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on oublie souvent que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait plein d'arbres, mais il y en avait deux particuliers. Je vous lis dans Genèse 2, au verset 9. « Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » Il y a donc un arbre de vie. Mais quel est donc cet arbre de vie? Quel est donc cet arbre qui donne la vie? Alors, on peut citer pas mal de passages. Je vais me contenter de ces quelques versets de l'évangile de Jean. Mais on pourrait lire tout le chapitre 6, en fait. Hein. « Je suis le pain de vie, dit Jésus. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. » Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, je le donne pour la vie du monde. C'est intéressant que Jésus fasse allusion au désert, à la manne, au père des Juifs de l'époque, en rappelant qu'ils ont tant bien que mal essayé de se conformer à la loi de Moïse, mais ils sont morts. Et je pourrais citer aussi cet autre verset qui est peut-être encore plus explicite, dans 1 Jean, donc dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 11, « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Cet arbre de vie, vous aurez compris, donc il s'agit de Jésus lui-même. Alors, on peut se demander de quelle manière cet arbre de vie nous délivre et puis en quoi ça consiste concrètement de manger le pain descendu du ciel et de goûter à l'arbre de vie. Ça a l'air d'être des métaphores, oui, mais concrètement, comment ça peut prendre, ça peut devenir concret. Alors, je reviens à ma lettre aux Romains, cette fois au début. Début chapitre 7 que vous avez entendu tout à l'heure à nouveau. Frères et sœurs chrétiens, je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi a de l'autorité sur nous seulement pendant notre vie. Vous savez sûrement cela. Vous savez sûrement cela. Mais il illustre. Par exemple, une femme mariée est liée à son mari par la loi pendant qu'il est vivant, mais quand il meurt, cette femme est libérée de la loi qui l'attachait à lui. Si elle devient la femme d'un autre homme, elle ne sera pas adultère. Pour vous, mes frères et mes sœurs, c'est la même chose. C'est la même chose. Bon. Donc, si
on comprend, toute loi, toute règle a un domaine d'application limité. Hein, avec votre vignette d'autoroute suisse, vous ne pouvez pas rouler sans payer sur les autoroutes françaises. Il y a des domaines d'application limités. Et même la loi de Dieu, si supérieure soit-elle, elle a ses limites, puisqu'elle s'applique, elle n'a pas de sens en dehors de notre vie terrestre. Bon, ben, on voit ce qu'il reste à faire. Hein. Mais avant que vous sortiez, vous alliez trop vite chercher une corde ou un revolver, on va peut-être s'assurer de comprendre ce que ça veut dire mourir dans ce cadre-là. Hein. Allons pas trop vite. La plupart du temps, en effet, lorsque Paul parle de la mort, il parle de notre mort spirituelle. C'est-à-dire ni plus ni moins que le fait de vivre sous l'empire du péché. Alors je pourrais citer de nombreux versets pour appuyer cela, mais simplement la suite du passage. Pour vous, mes frères et mes sœurs, c'est la même chose. Vous êtes unis au Christ, mort pour nous sur la croix. Puisqu'il est mort, vous êtes totalement séparés de la loi. Oui, autrefois, quand nous faisions n'importe quoi, nos désirs mauvais utilisaient la loi pour agir dans notre corps, et le résultat, c'était la mort. Mais maintenant, nous sommes totalement séparés de ce qui nous écrasait. Alors, nous pouvons servir Dieu d'une façon nouvelle, en obéissant à l'Esprit Saint. Et nous ne servons plus Dieu à la manière d'autrefois, en obéissant à la loi de Moïse. Il oppose l'obéissance à l'Esprit Saint et l'obéissance à la loi de Moïse. Et c'est Paul qui parle. Paul, il sait de quoi il parle. Vous savez sans doute qu'il a été un fervent religieux pharisien. Et par obéissance à cette loi de Moïse, il était convaincu de faire le bien en persécutant l'Église, en enchaînant, en condamnant à mort des chrétiens. Mais désormais, par Jésus, qui a vraiment pris toute sa place dans sa vie, il sert Dieu d'une façon toute nouvelle. Alors, en nous unissant à la mort réelle, physique, tangible de Jésus à la croix, nous mourrons, nous aussi, à notre condition de pécheur. Et c'est exactement ce que symbolise le baptême. Notre immersion dans l'eau symbolise notre mort au péché, grâce à notre union à Jésus. Et notre relèvement symbolise, par la résurrection de Jésus, l'entrée dans une nouvelle dynamique de vie. Je dis bien une nouvelle dynamique de vie. On est donc mort au péché, et on ne vit plus en suivant des règles, mais à l'école de l'Esprit-Saint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vivre à l'école de l'Esprit-Saint, vivre par l'Esprit. Eh bien, si vous voulez des règles ou de la discipline, je vous en propose une seule. Le seul effort qu'il convient de faire, frères et sœurs, c'est d'entretenir une relation intime, personnelle avec Jésus. Et ça, ça demande des efforts, parce que notre cœur rebelle, il va tout faire pour essayer de nous éloigner de ça. On a toujours quelque chose de plus important à faire. Mais en cherchant à le connaître par la prière, par la lecture de sa parole, nous laissons peu à peu l'Esprit de Dieu prendre de plus en plus de place en nous. Et c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous corrige, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous transforme peu à peu. Et la progression, on la voit. Même nos proches la voient. C'est dans l'union intime à Jésus que nous trouvons la vie véritable. Toujours Paul, il ne dit pas autre chose dans le passage qui a été lu tout à l'heure par Jonathan. Je vous invite à le relire rapidement en ayant ça en tête maintenant. Ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est vraiment la réponse au désarroi dont il était question juste au début. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela, parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Et par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Il a agi ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Ce n'est pas à force d'efforts et de discipline, c'est en laissant l'Esprit de Dieu agir en nous. Ainsi, ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige, c'est l'Esprit Saint. Je vous fais grâce du dernier paragraphe. Mais cela ne se fait pas en une nuit, du moins rarement à ma connaissance. J'aime bien cette image du chemin, de la randonnée, d'une longue marche, longue et belle marche. J'ai lu dans un livre récemment un auteur, Pitts 4.0, qui propose, c'est une grille de lecture, c'est évidemment à prendre avec distance, et si ça vous parle, tant mieux, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, mais je trouve que ça illustre bien les choses, et après coup, ça permet aussi de relire où nous en sommes. Et donc, il découpe, entre guillemets, la vie chrétienne en 6 saisons, qui ne sont peut-être pas aussi radicales. On sait que le passage d'une saison à une autre, ça se fait progressivement, hein, on voit le printemps arriver tranquillement. Mais ces étapes sont intéressantes à parcourir. Je vous les livre rapidement. Première étape, il parle de la sensibilisation à Dieu. On prend conscience de sa réalité, on prend conscience que Dieu existe, nous avons besoin de son pardon et on commence à entamer une relation avec lui. Une étape ensuite d'apprentissage, où on devient disciple, donc on commence à se mettre à lire la Bible, peut-être on va au caté, et on commence à comprendre ce que ça signifie de le suivre, et on peut devenir aussi membre à ce moment-là d'une communauté chrétienne, d'une église. Vient ensuite généralement une étape qu'il appelle vie active, de service. Ça, c'est l'étape du faire. On va servir Dieu activement, en prenant des responsabilités, peut-être en faisant de la musique, peut-être en étant responsable d'un groupe de jeunes, que sais-je. Mais c'est vraiment l'étape du faire. Et puis, vient généralement une étape, celle-là on l'aime pas trop a priori, mais souvent ça se passe dans les épreuves, dans les crises, qui nous amènent à un temps de désert qui nous purifie intérieurement. Lui, il appelle ça le mur. La Bible parle beaucoup de désert. Hein. Et dans cette période-là, dans la douleur, dans les difficultés, qui malheureusement ne manquent pas d'arriver dans notre vie, notre relation, notre intimité avec Dieu, elle prend une toute autre dimension. Et puisqu'elle a pris une autre dimension, on est armé pour un nouveau voyage, cette fois tourné vers les autres, tourné vers l'extérieur, en prenant ancrage sur ce que Dieu a changé dans notre vie. Et qui continue de changer. Hein. Et donc, c'est généralement caractérisé par un amour profond, une sérénité nouvelle. Et puis, enfin, peut-être, mais je ne sais pas si on peut arriver vraiment au bout, Dieu nous utilise ensuite transformé à travers les événements, les rencontres, pour témoigner de son amour dans une relation à lui authentiquement vécue. Nous sommes prêts à nous soumettre entièrement à sa volonté. On pourrait dire que c'est des étapes de maturité que l'on traverse. Alors peut-être que vous vous reconnaissez dans l'une ou dans l'autre. Pour revenir aux questions qu'on a posées en introduction, je pense qu'elles ont toutes leur place, vraiment toutes leur place. C'est normal, dans les étapes du début. Mais, enfin, comme les disciples dans leur marche avec Jésus, hein, ils ont passé 3 ans à son côté avec plein de questions et plein de choses qu'ils ne comprenaient pas. Si on prend l'exemple de Pierre, il voulait suivre Jésus avec ardeur, il était vraiment premier à vouloir le suivre. Malgré 3 ans passés aux côtés de Jésus, malgré de beaux accomplissements, hein, ils ont quand même chassé des démons, guéri des gens, etc., il l'a pourtant renié. Lui aussi, il s'est heurté au fait qu'une autre loi agissait en lui, même Pierre. Et puis après le deuil de la croix, le doute, l'angoisse des jours suivants, l'Esprit de Jésus est finalement entré en lui à la Pentecôte et a initié une profonde transformation intérieure. Il a compris le sens des événements, il est devenu capable d'annoncer l'Évangile sans crainte, avec une vraie assurance, une vraie autorité. Et le livre des Actes nous montre comment il s'est laissé guider et convaincre par l'Esprit, même après la Pentecôte. Dans Acte 10, il y a l'épisode avec Corneille où on voit qu'il se laisse toucher par l'Esprit et comprendre qu'il est amené cette fois-ci à annoncer l'Évangile aux nations et pas seulement aux Juifs. Et pour finalement ne même plus craindre la mort, si tragique soit-elle. Alors moi, je voudrais vraiment vous encourager parce que chaque saison est plus belle que la suivante. Dieu vous émerveillera un peu plus à chaque pas. Ne croyez pas trop vite que parce que vous l'avez accepté dans votre cœur, vous avez tout reçu. Ni qu'être né dans une famille chrétienne, ou même dans mon cas, être fils de pasteur, ça fait tout. Oui, ça aide probablement pour les saisons 1 à 3. Oui, et ça peut même faire de vous un serviteur particulièrement zélé. Ça a été mon cas et je suis reconnaissant à Dieu pour ça. Mais s'arrêter là, c'est prendre le risque que ce zèle soit bâti sur l'arbre de la connaissance. Certains, malgré leur zèle pour Dieu, tournent alors dans une forme de religiosité, de fanatisme, et ce fut le cas de Paul. Malgré toute son érudition, il a fallu le mur du chemin de Damas pour qu'il comprenne qui était ce Jésus qu'il persécutait. Alors sans aller jusqu'à cet extrême, on se fait facilement des idées, nous-mêmes, de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Quand on a grandi comme moi dans un contexte préservé, avec des valeurs chrétiennes enseignées et vécues, on est assez enclin à penser qu'on est quelqu'un de bien, qu'on n'est pas vraiment pécheur. Personnellement, je me suis engagé pour de grandes causes, dans le monde associatif notamment, porté par de belles valeurs humaines. On m'a souvent félicité pour cela, encouragé, admiré peut-être même. Et j'étais convaincu de bien faire, j'en étais fier. Jusqu'à ce que, dans la douleur, le Seigneur me fasse comprendre que derrière les grandes causes que je servais, derrière mes valeurs brandies en étendard, se cachait en fait un orgueil très puissant. Les compliments sincères que je recevais allaient directement flatter mon ego, m'empêchant d'être au clair, en fait, sur mes motivations profondes. J'étais véritablement dans l'arbre de la connaissance, dans le péché, et ça a eu des conséquences très concrètes sur mes proches, sur ma femme au premier chef. Souvent on dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Ce n'est pas un verset biblique, mais je pense que c'est souvent vrai. Et je crois qu'il n'y a véritablement que Jésus qui puisse nous le faire à la fois réaliser et nous permettre de renaître, enfin d'être renouvelé suite à ça. Et ensuite, l'engagement prend un tout autre sens. Ensuite, les paroles que l'on peut prononcer sont vraiment habitées par son esprit. Ainsi, en cherchant à mieux connaître Jésus dans la prière et dans sa parole, il vous fera peu à peu réaliser combien il est grand. Il vous fera abandonner votre orgueil pour découvrir l'humilité et porter du fruit en abondance. C'est un processus douloureux, mais cela en vaut vraiment la peine. Alors, je ne suis pas sûr d'être arrivé au bout, loin de là, mais voilà, je vous invite à réfléchir un peu à ces différentes étapes et à vous demander où j'en suis. Et peut-être, si vous avez l'impression de ne jamais avoir vécu ce mur, demandez-le à Dieu. C'est audacieux, mais c'est vraiment... vous entrerez dans une toute autre... Votre vie chrétienne entrera dans une toute autre dimension. Alors, en conclusion... pas regarder l'heure. La vie chrétienne, ce n'est pas l'obéissance religieuse à des lois. Ce n'est pas la recherche ou la définition de ce qui est bien et ce qui est mal, parce que ça, c'est finalement ça ce que la Bible appelle aussi le péché, ça mène à la mort, on l'a vu tout à l'heure. Ce que veut Dieu, c'est nous donner la vie, et il veut nous la donner en abondance. Alors, on ne voit pas très bien sur les diapos, mais il y a marqué « vie » en haut. Il veut nous sortir de cette dimension bien mal pour entrer dans une dimension mort-vie. La vie chrétienne, c'est donc se mettre à la suite de Jésus et entrer dans une dynamique de vie en s'attachant à lui, en laissant son esprit faire son œuvre en nous. Et donc, si vous n'aimez pas ces images d'arbres, la Bible donne d'autres exemples. Elle oppose suivre la loi à suivre Jésus, on l'a aussi dit. On peut parler aussi de vivre selon la chair ou marcher par l'esprit. Décidément, mes couleurs sont mal choisies. Et ça, Paul le résume dans la lettre aux Galates. « Marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. » Voilà une réponse, j'espère, concrète aux questions qu'on se posait tout à l'heure. Alors, d'un point de vue plus personnel, si je suis devant vous, ce n'est pas parce que mon père a été pasteur ici il y a 20 ans. Ce n'est pas un héritage et ce ne sont pas des cases que j'ai cochées. Je le dis en toute humilité, c'est parce que Christ m'a trouvé, qu'il a su me montrer à la fois combien j'étais incapable de faire le bien, et à la fois combien lui était grand, et qu'il pouvait tout pour moi, et que tout ce que je pouvais accomplir de bien, c'était par lui. Peu à peu, il m'aide à me détacher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un pas après l'autre, pour goûter aux fruits de l'arbre de vie, en m'appuyant toujours plus sur Jésus. Le chemin est encore long, mais il est beau, comme je disais. Et je voudrais terminer par la prière avec les paroles de Paul à nouveau, mais cette fois-ci dans la lettre aux Éphésiens. Je vous invite à prier. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints. Quelle immense puissance il a déployée en notre faveur à nous les croyants. Son énergie, sa force toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Amen.